chers amis de Radio Cluj, les bonsoir, ou plutôt bon après-midi. J'ai l'habitude de vous voir en soirée, et là, nous nous retrouvons, comme depuis le début de l'année scolaire, en matinée, comme on dit au théâtre, c'est-à-dire dans l'après-midi. J'aurai la joie de recevoir deux invités pour cet après-midi. Tout d'abord, Nathalie Lagan, qui par liaison téléphonique répondra à nos nombreuses interrogations, inquiétudes, angoisses à propos de ce Parcoursup. Puis je recevrai vers 14h45 Antoine Delacoste, que vous connaissez bien, pour qu'il nous fasse un petit point de géopolitique, ce qui se passe entre l'Iran, les États-Unis, Gaza et Israël. Nous lui demanderons de nous éclairer. Tout d'abord, je vérifie que la liaison est bien établie. Nathalie Lagan, vous êtes avec nous ?
Oui, monsieur l'abbé, je vous entends bien.
Parfait,
vous m'entendez ?
Très, très bien. Oui, je vous entends très, très bien, et les auditeurs aussi. Un grand merci. Donc, vous le savez, sur Radio Courtoisie, on vous appelle plutôt Ariane que Lagan, parce que, pour tout le monde, Parcoursup, c'est non seulement le parcours du combattant, mais c'est surtout le labyrinthe. Et on a toujours peur qu'un minotaure ne se précipite sur les enfants et les dévore tout cru. Expliquez-nous un petit peu. D'abord, quels sont les délais? Quel est le calendrier? Il y va de l'avenir, quand même, de tous ces jeunes gens et ces jeunes filles.
Oui, clairement, clairement. Merci déjà, monsieur l'abbé, de me recevoir. Je suis super contente de vous retrouver, de retrouver tous les auditeurs de Radio Courtoisie pour essayer d'un peu éclairer leur lanterne sur cette machine infernale de Parcoursup, qui est en fait juste une plateforme de liaison entre les jeunes qui souhaitent faire des formations après le bac et les formations elles-mêmes. Alors, évidemment, il y a des contraintes de date. Là, en fait, on est dans la période où on fait ses vœux. Hein, les jeux sont faits, rien ne va plus. Non, j'exagère. On a encore 15 jours pour faire ses vœux jusqu'au 12 mars, c'est-à-dire, en fait, mettre la liste des formations qui nous intéressent, voilà, qui intéressent le jeune.
Oui. Oui, très bien, je vous écoute.
Voilà, mais il aura plus de temps jusqu'au 2 avril pour toute la partie lettre de motivation, la partie rédactionnelle. Mais déjà, là, il faut vraiment qu'il pose tous ses voeux, alors avec des plans A, B, C. Hein. Évidemment, si les formations sont très sélectives et ne prennent que 5% des candidats, il vaut mieux prendre un plan B, voire un plan C. Et là-dessus, vous avez beaucoup d'informations sur Parcoursup. N'hésitez pas, je parle spécialement aux parents de terminale, à regarder tous les onglets. Ils sont très riches d'informations pour vous donner vraiment une stratégie et être sûr que votre jeune aura quelque chose qui lui plaira, qui lui va bien et dans lequel, après, il peut bien s'épanouir et se développer.
Très bien. Alors vous, Nathalie Lagan, qui êtes conseillère en orientation scolaire, depuis un certain nombre d'années, c'est la période la plus chargée parce que c'est le moment où tout se joue et on vient vous consulter surtout pendant cette période ou pas nécessairement.
Alors oui, il y a du travail en ce moment, mais ça commence souvent dès octobre,
oui,
où les parents participent parce que donc moi j'ai un cabinet privé, je suis rattachée au réseau Ton Avenir, qui est on est une trentaine de conseillers en France qui ont maintenant 15 ans d'expérience. Moi, ça fait 8 ans que je suis conseillère privée en orientation. Et en général, les parents viennent nous voir en septembre, octobre, novembre pour déjà faire le point sur leurs jeunes, sur leur personnalité, comment ils fonctionnent, leurs sources de motivation, leurs centres d'intérêt, leurs talents. Et là, on fait une recherche personnalisée sur quels sont leurs talents. Et à partir de ça, on va pouvoir proposer des formations. On va voir les métiers qui leur conviennent, quels métiers leur conviennent bien, et ensuite les formations envisagées. Donc là, on est sur la dernière étape, vraiment sur le choix des vœux, pour fignoler le dossier. Et puis après, bon, bien sûr, il y aura des résultats, mais on va en parler.
Donc, pour que le vœu soit réaliste, c'est-à-dire réalisable, il faut qu'en amont, il y ait eu tout de même une forme d'étude de la personnalité, des capacités. Est-ce que vous voyez quand même des jeunes qui se font des illusions, qui pensent à des choses qui ne sont vraiment pas à leur portée ?
Mais clairement, oui, clairement. Là, j'ai eu un papa C'est parfois surtout les parents, mais parfois les jeunes. Le père ne voulait que des classes prépa scientifiques pour sa fille et qui avait un dossier un peu juste. Et c'était difficile, mais j'ai dû lui faire admettre qu'il fallait qu'il voie d'autres possibilités. Et finalement, bon, elle était prise dans une école d'ingénieur post-bac qui lui va très bien. Mais elle aurait mis que des classes prépa, elle était prise nulle part. Et ça, j'en ai eu malheureusement, ouais, j'en ai eu dans mon cabinet des jeunes qui n'avaient rien eu sur Parcoursup parce qu'ils n'avaient pas visé de façon intelligente par rapport à leur notamment à leur dossier scolaire parce que ça pèse souvent beaucoup sur les choix Parcoursup.
Et donc, il y a effectivement le livret scolaire qui compte, puisque c'est quand même le bilan de l'année, mais il y a aussi une approche, j'allais dire, un peu objective d'une tierce personne comme vous, parce que les parents, eux, peut-être manquent de cette objectivité s'ils pensent qu'effectivement, ils ont mis au monde un Einstein pour commencer, et qui risque de ne pas pouvoir avoir la classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand.
Exactement, le papa sortait Louis-le-Grand et a souhaité qu'on mette Louis-le-Grand dans les vœux.
Ah
J'ai
oui.
dit OK, mais voilà, mais c'était peu probable qu'il l'ait. Alors, voilà, maintenant, oui, il y a les parents, parfois le jeune, il faut rester dans le réel, là, vraiment. Et puis, les choses ont beaucoup changé, hein, depuis le papa, depuis la période où il était à Louis-le-Grand. Évidemment, le bac a changé, les formations elles-mêmes. Maintenant, il y a énormément de passerelles. On intègre beaucoup plus enfin, beaucoup plus, peut-être pas, mais beaucoup d'écoles d'ingénieurs en utilisant des passerelles universitaires ou autres. Et on n'est plus tout à fait sur les mêmes schémas.
Oui.
Voilà, il faut faire une remise à jour parfois avant de donner un conseil pertinent.
Alors, je reviens à l'époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire on est dans la dernière phase, comme vous le dites, c'est la partie où on doit indiquer ses voeux. Vous dites qu'il vaut mieux en indiquer plusieurs, des fois que le premier ne soit pas retenu. Qu'est-ce qu'il y a du côté de la lettre de motivation, par exemple, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire, ne pas dire. Là aussi, je pense que vous devez conseiller vos jeunes correspondants.
Oui, c'est important aussi de pouvoir les accompagner jusqu'au bout. Alors, certains disent la lettre de motivation ne sert à rien. Il y a des bruits qui courent sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai mis une recette de cuisine à la place de ma lettre de motivation et j'ai été pris. Bon, alors,
Elle a été prise à l'école Ferrandi, alors, une école hôtelière, je ne sais pas.
ça doit être ça. Ça doit être ça. Oui, vous avez raison, c'est une bonne stratégie pour Ferrandi. Mais en effet, il faut vraiment voir ce que veut la formation. Et là-dessus, sur Parcoursup, on peut voir si la lettre de motivation va peser lourd ou non dans le jugement
Oui.
des formations. Et pour certaines formations, elles comptent peu parce qu'évidemment, il y a tellement de candidats, puis il y a 1 000, 2 000, 3 000 candidats. Ils vont pas passer des heures à regarder toutes les lettres. Ils vont regarder avant tout le dossier scolaire, les notes. Alors, ce qui va peser lourd, c'est par exemple les notes de spécialité, les trois spécialités du bac, mais aussi les notes du bac de français. Et là, je me permets de le dire aux parents des jeunes de terminale qui sont en bac scientifique, notamment en première S, enfin première, ça s'appelle plus PS, mais première scientifique, souvent maths, physique, SVT, qu'ils ne négligent pas le français, le bac de français, parce que la note est souvent prise dans l'algorithme Parcoursup. Et pour la formation, c'est une preuve que le jeune sait s'exprimer bien en français à l'écrit comme à l'oral. Donc oui, les trois spécialités, le bac de français, mais après, alors, il y a des formations, même pas mal, qui vont regarder beaucoup la lettre de motivation. Alors, certaines formations, depuis l'année dernière, n'ont pas de lettres, voilà, ne demandent pas de lettres, mais il y a des formations qui vont vraiment regarder vraiment de près. Et je pense à tout ce qui est paramédical, où là, il faut montrer une forte motivation, une implication, parler de ses stages, etc. Et là, la lettre, ben, c'est quelque chose d'un exercice un peu délicat, dirais-je, parce que c'est court. On demande seulement 1 500 caractères, c'est-à-dire une douzaine de lignes. Donc, plus c'est court, plus c'est difficile, hein, souvent à exprimer. Et il faut arriver à tout mettre en 12 lignes. Et ça, c'est un exercice un peu compliqué qui se prennent, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Et oui, j'aide les familles sur ce sujet-là.
Vous leur
Il y a
apprenez à
d'autres.
être concis. et précis, et qu'ils disent en peu de mots ce qu'il faut exactement dire. Quand vous parlez du français, de l'expression écrite, je voudrais apporter un petit témoignage. C'était bien avant Parcoursup. J'ai demandé un jour à un ami qui recrutait pour une banque, comment est-ce qu'il procédait? Alors, je lui disais, est-ce que vous avez des tests? Est-ce que vous allez chercher tous vos candidats chez HEC ou ça? Il m'a dit pas du tout. C'est beaucoup plus simple. Alors, je lui dis, comment ça se passe? Il me dit, c'est très simple. Je les convoque et je leur dicte. Je leur fais une dictée, tout simplement. Et avec la dictée, je sais s'ils seront bons ou s'ils seront pas bons, rien qu'en sachant s'ils ont beaucoup de fautes d'orthographe.
C'est fou,
C'est fou, hein?
ça m'étonne pas. Oui, parce que maintenant le niveau de français a beaucoup baissé, et donc le fait de parler un bon français et l'écrire bien, c'est un vrai plus. On le voit bien dans le monde de l'entreprise, les lettres, les mails pleins plein de fautes d'orthographe ou de grammaire même.
Ouais.
Alors aujourd'hui, on peut faire ces lettres, pardon, je coupe, avec l'IA, avec ChatGPT, comme on
Oui.
dit. Beaucoup le font, mais franchement, je ne le recommande pas dans le sens où ça se voit. Voilà, une lettre type qui va être pondue par ChatGPT, qui n'a aucune personnalité, ne va pas être retenue.
Oui.
Il faut vraiment que le jeune mette en valeur ce qui va faire la différence dans ses expériences, sa personnalité, dans ses envies, ses projets, son envie professionnelle. Et qui mettent aussi en valeur le fait qu'ils connaissent cette formation, en fait, qu'il n'a pas cliqué par hasard sur Parcoursup, mais vraiment qu'il la connaît, qu'il a fait des journées portes ouvertes, qu'il s'est intéressé, qu'il a rencontré des gens, des professionnels, etc. Et à partir de ça, oui, il devient crédible. Mais franchement, les lettres type ChatGPT, je ne recommande pas du tout. Hein. Ça
Alors là,
ne sert
vous
à rien.
donnez des conseils généraux. J'imagine que des parents qui ont un enfant qui est en train de remplir son Parcoursup doivent se dire, mais on voudrait des conseils pour nous, personnalisés. Alors ça ne peut pas se faire à la radio, mais est-ce qu'on peut vous joindre quelque part? Vous appartenez donc à ce groupe de conseillers privés d'orientation qui s'appelle Ton Avenir. Et est-ce que vous avez une adresse internet? Vous êtes joignable?
Oui, je suis joignable. Mais vous tapez ton avenir et vous tombez sur différents conseillers. Moi, je suis la conseillère de Bretagne. Je représente ton avenir. C'est tout ce qui est Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Ou alors, vous me contactez directement par mail. Nathalie.lagane, LAGANE@tonavenir.net. Et là, vous aurez tout, mes coordonnées, mon téléphone, tout ce qu'il faut pour me contacter. Alors, je reçois dans mon cabinet, dans ma belle Bretagne, à côté de Saint-Malo, mais je reçois aussi en visio. Hein. J'ai beaucoup de gens qui habitent loin, qui me contactent. J'en ai sur la frontière franco-suisse, j'en ai à Paris ou dans le sud, ou même à l'étranger qui me contactent. Et puis là, on programme ce qu'on appelle des Zooms, voilà, ensemble. Mais j'aime bien voir quand même, dans la mesure du possible, avoir un rendez-vous en présentiel. Alors, certains Parisiens aiment bien profiter des vacances pour venir me voir. Je travaille pas mal pendant les vacances. Au moins un premier rendez-vous. Voilà, ils sont dans la famille ou en visite à côté de Saint-Malo, Dinard. Et bien, on va se caler rendez-vous pendant les vacances, une après-midi pendant 1 heure et demie pour faire connaissance, pour faire le point. Et puis après, bon, voilà, s'ils repartent sur la région parisienne, bien sûr, on continue en visio. Mais j'aime bien évidemment le contact direct et souvent très riche
Oui,
et beaucoup plus agréable. Voilà, dans la mesure
certainement.
du possible.
Alors, on continue quand même dans les conseils généraux, parce que on a tellement l'impression que ce Parcoursup conditionne l'avenir. Est-ce que ça tombe comme un couperet une fois qu'on a répondu, c'est fini, il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas une vie après le Parcoursup? Comment est-ce que ça se passe? Rassurer quand même un peu les parents qui sont anxieux quand même.
Oui, c'est très anxiogène cette partie-là. Disons que bon, les vœux, on ne peut pas en rajouter après la date du 12 mars. Maintenant, on peut en enlever, hein, ça, il n'y a pas de problème, il suffit de ne pas remplir les lettres de motivation, etc., ce qui est demandé. Et puis après, on aura les résultats le 2 juin. Si on est pris nulle part, il y a ce qu'on appelle une phase complémentaire qui est sera du 11 juin au 10 septembre, mais qui donnera pas accès à toutes les formations, seulement les formations qui resteront disponibles après le premier jeu de domino des résultats. Et en fait, bon, là pour l'instant, on pose les vœux tranquillement, on fait ses lettres, et puis ensuite, il y a une grosse coupure pour laisser aux jeunes le temps de se concentrer sur le baccalauréat, parce qu'il y a ça aussi.
Il faut quand même qu'il le passe. Non,
Oui, il
je
faut
ne veux
qu'il
pas être trop
passe.
méchant, mais je connais quelqu'un qui dit, oh, bah, le bac quand même aujourd'hui, faut, pour ne pas l'avoir, il faut en faire la demande.
Ouais.
Parce que c'est quand
C'est vraiment
même, le niveau a tellement baissé, ce qui doit
Ça
d'ailleurs
serait
rendre,
vraiment
ce qui doit rendre l'orientation encore plus difficile, parce que quand tout le monde a le bac, il y a plus de véritable classement. Tout le monde pense avoir droit, au fond, justement, à une prépa Henri IV. Enfin, c'est.
Oui, c'est délicat, et d'autant plus, j'irais même que les résultats du bac ne rentrent pas dans Parcoursup. Ne le dites pas trop aux élèves qui ne feront plus rien au troisième trimestre, mais Parcoursup se joue sur les notes de première et sur deux trimestres en terminale. Le troisième trimestre n'est pas pris dans Parcoursup ni les notes du bac. Les notes du bac, elles serviront plus tard en cadré orientation, mais en tant que telles, elles ne rentrent pas dans Parcoursup. Et donc c'est. Mais le bac, il faut quand même le bosser, hein, parce que là, j'ai eu un jeune qui a décroché en première année de
Oui.
médecine. Il est venu me voir avec ses parents au cabinet, et il avait complètement négligé ses notes du bac en disant, ouais, ça sert à rien. Et bien là, quand il va repostuler, il veut des écoles d'ingénieurs, ça va être un peu compliqué du fait qu'il a vraiment décroché au moment du bac.
En tout
Donc
cas, ce qu'on a
voilà, mais.
retenu, c'est que justement, si le bac qu'ils vont passer ne va pas immédiatement servir, mais seulement dans une réorientation ultérieure si nécessaire, en revanche, les notes de français, elles, servent, elles comptent.
Oui,
Ça, c'est
complètement.
sûr. Ouais.
Oui, et puis ce qu'on appelle la première partie du bac, il passe déjà une spécialité en première. Celle-là, elle va rentrer. Donc de français et les notes de tronc commun. Tout ça, enfin, va vraiment être pris en compte. Ce sera mis sur Parcoursup. Alors il y aura aussi, oui, ça je voulais l'indiquer, les avis des professeurs. Une fois que les vœux sont rentrés le 12 mars, les professeurs vont récupérer les dossiers et vont donner leur avis sur les vœux des jeunes.
Oui.
Donc, c'est là où il faut que les jeunes et les parents, ça c'est un conseil que je donne aux parents en terminale, rentrent en communication avec le professeur, notamment le professeur principal, qui va donner son avis sur les vœux. Il va donner un avis sur est-ce que le jeune a une forte probabilité de réussir ou non. Et là, il faut que les parents et le professeur principal soient sur la même longueur d'onde. Si on peut d'ailleurs en amont parler au professeur des vœux que l'on projette, ça serait bien pour être sur la même longueur d'onde. Parce que j'ai eu dans mon cabinet pardon, un jeune qui n'avait rien eu parce que ses professeurs avaient dit non, ne réussira pas a priori. C'est un avis qui pèse lourd et c'est normal puisque les professeurs connaissent le jeune. Et un autre professeur, parce que ceux qui font la sélection dans les écoles, ce sont aussi des professeurs. Donc évidemment, ils vont avoir confiance, mais c'est normal, donner du poids à cet avis de collègue, si je puis dire.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que
Voilà.
vous pensez? Parce qu'il y a aussi des rubriques facultatives. Est-ce qu'il faut les écarter ou au contraire? Parce qu'on demande pour un petit peu mieux, peut-être cerner la personnalité du candidat, on demande un peu quelles sont ses activités en dehors, quels sont ses centres d'intérêt. Ça, il faut le mettre ou il faut pas? Qu'est-ce que vous conseillez?
Bah oui, je le conseille largement. Alors, ce n'est pas obligatoire. On ne va pas vous bloquer votre liste de vœux si vous ne le remplissez pas. Mais c'est un onglet. Vous verrez, il y a l'onglet dossier, puis l'onglet activité, centre d'intérêt, qu'on recommande fortement chez Ton Avenir. Il faut remplir. Alors, activité, centre d'intérêt, c'est quoi? Ça va être tout ce qui est bénévolat. Ça va être le scoutisme, voilà. Si on a eu des responsabilités, de l'encadrement au cours du scoutisme, si on a fait des ventes de gâteaux, si on a chanté pour des personnes âgées, tout ce qui est ouverture vers les autres, responsabilité est très apprécié. Il y a ce volet-là. Il y a le volet aussi sportif. Hein, quand on s'engage dans le sport, ça montre aussi un trait de personnalité. Si on est. Eh bien, je ne sais pas, moi, Gallo 6 en équitation, ne pas hésiter à le mettre. Ça ferait un vrai plus par rapport à d'autres candidats. Si on a aussi les voyages, si on a fait, eh bien oui, ça c'est important, les voyages, notamment linguistiques, si on a été en immersion totale en Angleterre pendant un mois, ça fait waouh. On dit, bon, là, il y a un bon niveau de langue. Puis les autres voyages aussi, hein, si on est allé en Grèce et qu'on a été passionné par voilà,
L'Acropole.
tous les acropoles, exactement, tous les temples antiques, l'Antiquité, mais ne pas hésiter à le mettre. Et ça montre une ouverture d'esprit. Disons, même dans certaines prépas, vous voyez, j'ai un ami qui fait un recrutement pour une prépa très cotée sur Lyon, prépa privée. Il est prof et il est parmi ceux qui sélectionnent les dossiers. Il m'a dit clairement, première étape, on lance un algorithme sur les notes de sciences. Deuxième étape, algorithme sur les notes de lettres et le baccalauréat. Et troisième étape, là, il reste, je ne sais plus combien, c'est une centaine de dossiers, ou 200 ou 300, je ne sais plus. Et nous, les professeurs, on va les regarder un par un. Et on va regarder tout ce qui est activité centre d'intérêt. On va regarder aussi, disait, les examens, les concours de maths, s'ils font des concours nationaux en seconde, première terminale. Et mettre leur classement, ça ferait un vrai plus. Et là, ça va jouer un peu, hein, le fait qu'ils choisissent ou non les candidats pour l'année prochaine. Donc, oui, bien remplir cette rubrique. Puis, alors, je pense bien sûr tout ce qui est paramédical. Si vous avez pu faire un stage dans une maison de retraite, par exemple, même pour servir les repas à midi, hein, et que votre ambition, c'est de devenir infirmière, bah, c'est un vrai plus. Sur ces métiers-là, vraiment, hein. Vraiment, ça montre, bah, si vous êtes une choc dans une maison de retraite, vous pouvez tenir le choc partout, si je puis dire.
Si vous avez été en mission médicale aux Philippines, par exemple, c'est bien.
mais oui, carrément. Ah oui. Ça, le bénévolat, exactement, l'humanitaire, les Philippines ou le Kenya, ça c'est génial. Mais même au pèlerinage de Chartres, parce que certains d'entre nous, d'entre vous,
Oui.
parmi les auditeurs, font le pèlerinage de Chartres. S'ils le font, alors soit dans l'accueil, soit, ben, je pense, avec le chapitre Saint-Ludivine qui s'occupe des handicapés, ben, ça, c'est un vrai plus. Ça, c'est génial. Ou les amis du lundi aussi qui font des sorties avec les handicapés.
Voilà.
Tout
Alors,
ça, si vraiment. Oui.
certains se disent, mais c'est dans un cadre confessionnel, est-ce que ça risque pas d'être une mauvaise note auprès des recruteurs laïcards?
Alors, il faut présenter les choses,
Oui.
évidemment. On va pas dire j'ai fait un pèlerinage à Rome, on va dire j'ai fait un voyage culturel à Rome, voilà. Et puis la troupe, on n'est pas le troupe scout, on n'est pas obligé de dire quelle troupe c'est exactement. Il y a tellement de troupes scouts aujourd'hui que vous mettez scoutisme, et voilà. Voilà, on n'est pas obligé de donner tout le détail, mais quand même, la mission elle-même, les responsabilités, c'est important, c'est
Oui.
important.
Alors continuons d'affoler nos auditeurs, si vous voulez bien, Nathalie Dagan, parce que là, c'est la période du bac, mais ça commence déjà à être très inquiétant en seconde, puisque on est en train d'organiser tout ça de façon nouvelle. Qu'est-ce qui se passe là actuellement? Quelles sont les
Oui,
spécialités qu'il faut
alors.
choisir pendant l'année de seconde, puisque c'est dès la seconde qu'on est sur une espèce de triage, je ne sais pas.
Il y a une orientation qui se fait en seconde. C'est-à-dire que le baccalauréat a changé. On n'est plus sur une série littéraire, pardon, scientifique, sur des rails. Maintenant, on doit choisir trois spécialités qui vont définir le baccalauréat. Alors ça date, ça doit faire, je ne sais pas, 5-6 ans maintenant. Mais non, voilà, je parle aux parents qui peut-être ont encore des jeunes enfants ou qui sont des enfants qui vont être au collège. Il y a un choix important à faire en seconde, et ça se fait pendant l'année seconde. Donc, pour aussi les parents qui ont des élèves en seconde, c'est important maintenant. Choisir les trois spécialités du bac général. Alors, il y a des triplettes, comme on dit dans le métier classique. Évidemment, un bac S, ça va être maths, physique, SVT. Après le bac L, il y a déjà un peu plus de possibilités. Il y a ce qu'on appelle AGGSP, oui, ça fait bizarre, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Après HLP, humanité, littérature et philosophie, ça c'est deux grands piliers. On peut rajouter les langues, langue LLCE. Et puis aussi le troisième bac classique, ça va être le bac économique. Et là, bon, en général, je choisis sciences économiques et sociales, SES, parfois couplé à l'histoire géo, sciences politiques. On peut rajouter les maths ou non. Et puis d'autres spécialités qui n'existent pas dans tous les lycées, mais qui existent dans certains. La littérature, langue et culture de l'Antiquité, plus axée sur latin et grec. Il va y avoir NSI, numérique, sciences informatiques, ou sciences de l'ingénieur. Et ça peut être utile aussi pour certaines formations. Et bon, les choix sont importants, puisqu'après… Arriver ben justement maintenant au moment de Parcoursup, si on n'a pas les bonnes spécialités, clairement ça vous ferme des portes. Voilà. J'ai eu à conseiller deux jeunes filles, deux jumelles qui voulaient être ingénieures et qui n'avaient pas appris l'aspect physique, les spécialités physiques. Ça a été très compliqué. Et j'ai pu leur proposer quoi? Trois, quatre écoles sur Paris, elles étaient parisiennes, qui ont coûté très cher à leurs parents parce qu'elles avaient un profil atypique. Et donc, ben oui, ce sont des choix stratégiques. Ben, disons qu'il y a beaucoup d'heures de cours consacrées à ces trois spécialités. Donc, il faut vraiment réfléchir en amont.
Là
Ça, c'est
aussi,
sûr.
si on a des inquiétudes, on peut peut-être s'adresser donc à Ton Avenir. Si on tape sur un moteur de recherche Ton Avenir, il y a un onglet. Vous-même, vous êtes Nathalie Lagan. Je donne d'ailleurs votre adresse électronique, nathalie.lagan, Lagane, tonavenir.net. Et là, vous pouvez peut-être justement conseiller, parce qu'au fond, chaque étudiant est un cas particulier. Enfin, c'est quand même. Vous faites plus du sur-mesure que du prêt-à-porter, j'ai l'impression.
Clairement, oui, clairement, c'est du Christian Dior de l'orientation, c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que on est très à l'écoute du jeune. Moi, j'aime beaucoup écouter, notamment lors du premier rendez-vous avec les parents, les mots que va utiliser le jeune. Quand je lui demande de raconter une histoire, enfin, je lui demande de raconter ce qu'il aime lire, ce qu'il aime regarder, dans les jeux aussi, même jeux vidéo, s'intéresser à ce qui l'intéresse et écouter la manière dont il raconte les choses. C'est très, très intéressant et ça donne des indices sur sa personnalité, clairement. Alors, parfois, certains n'aiment que le football et il faut creuser un peu pour trouver des passions, mais là, j'en ai un, par exemple. Oui, il aime le football. Lui, il est carrément en troisième et on parle un peu d'orientation professionnelle parce qu'il n'est pas bon en classe, mais d'un autre côté, il ne travaille pas vraiment. Donc, les parents sont venus me voir en disant, mais on a l'impression qu'il a des capacités, mais il est motivé pour rien, sinon le foot. Bon. J'ai posé des questions et j'ai vu que déjà son relationnel naturellement est excellent. Et puis en creusant un peu, j'ai vu qu'il y avait un intérêt pour l'argent, pour vendre. Il y avait quelque chose qui était là, qui se dessinait par des petites touches. Puis bon, ensuite, avec le test de personnalité, bien sûr, les choses s'affirment davantage. C'est un peu comme passer un scanner, si vous voulez. On est un peu comme un médecin
Oui.
qui fait un diagnostic, mais qui va demander aussi des examens complémentaires. Et là, clairement, voilà, c'était les métiers du commerce. Et là, j'ai vu, il y avait une petite étincelle dans les yeux qui s'est développée. Et je lui ai dit, bah, OK, mais tu sais, si tu veux une bonne école de commerce, il va falloir que tu ailles en bac général, là. Ça, c'est clair. Et donc, bah, les 7 de moyenne en maths, ce n'est pas possible. Bon, bah, ça l'a un peu secoué, mais il a essayé de se prendre en main et les parents étaient très contents, quoi,
Et
évidemment.
grâce à vous, il va vendre des chaussures à crampons bientôt.
Mais oui, mais pourquoi pas? Mais d'ailleurs, c'est un métier que je propose, qui sont passionnés de sport. J'ai bon, tu peux, par exemple, tu voudrais être vendeur à Decathlon ou spécialisé en articles de sport. Ou est-ce que tu voudrais concevoir? Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que ton envie, ça serait plus vendre des produits de sport liés au sport ou alors concevoir? Là, j'en avais un, il était passionné d'escalade. C'était vraiment son truc. Et alors, eh ben, je lui dis, mais est-ce que tu n'as pas envie de construire des murs d'escalade, de les concevoir? Et là, ça fait tilt. Et lui, j'ai pu s'envoyer vers ingénieur. Non, mais c'est génial.
Alors
Okay.
là, vous nous parlez des cas miraculeux. C'est vous que je vais essayer de désespérer. Et quand vous tombez sur quelqu'un qui a tout raté. qui a loupé tout après le bac, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a la Légion étrangère, ou alors, s'il a la vocation, il peut rentrer en Grande Chartreuse. Mais tout le monde n'a pas cette vocation. Alors, qu'est-ce que vous proposez?
Là, il faut reprendre les choses. Et oui, il faut qu'il retrouve confiance en lui.
Oui.
C'est en fait, il n'a pas été mis au bon endroit. Moi, j'aime bien dire ce que disait Einstein, c'est tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson à sa capacité de grimper aux arbres, il se trouvera idiot toute sa vie. Et évidemment, si on met à faire des études de médecine alors qu'il n'est pas du tout scientifique et qu'il fait ça uniquement pour plaire à son grand-père, il va échouer, il va être démoli. Bah, j'en ai en ce moment qui sont bien ébranlés par une première année qui n'a pas fonctionné. Mais en fait, quand on reprend les choses avec l'écoute, les tests de personnalité, l'échange, on va repartir sur ses bases, repartir sur ses essentiels. Et là, reprendre des choses qui lui vont bien. Il est vraiment comme s'il était dans un costume trop petit, quoi. Non, non, tu n'es pas lui, tu n'es juste pas au bon endroit, c'est tout. Et le but, c'est de le mettre au bon endroit pour qu'il fleurisse, pour qu'il donne des fruits et qu'il soit heureux, quoi. C'est ça le but. Mais il y a, voilà, faut pas se désespérer, jamais. On a tous une place à avoir. Hein, le bon Dieu, il nous a prévu, il nous a donné des talents qu'on doit
Oui.
développer. Et on a tous un rôle à avoir dans la société, et le tout, c'est d'être au bon endroit, quoi.
Merci de nous laisser sur cette note d'espérance. Je dirais aux auditeurs d'ailleurs qu'on peut vous voir, parce que vous quittez parfois votre Bretagne, vous allez au, comment dirais-je, salon de l'étudiant organisé par le MCF, si j'ose dire. Enfin, c'est plus que.
Oui,
C'est les forums orientation et métiers. Et là, il y en a 3 par an. Il y en a un en région parisienne, il y en a un dans votre région, et puis il y en a dans le sud. Alors, on n'a pas les dates puisque l'année universitaire est quasi terminée. Les forums ont déjà eu lieu, mais il y en aura l'an prochain. Donc là, tout simplement, je renverrai les auditeurs de Radio Courtoisie au site du MCF, Mouvement catholique des familles. Il suffit de taper sur un moteur de recherche Mouvement catholique des familles. Et il y a un onglet justement sur les forums métiers, orientation et métiers. Et là, vous intervenez, vous avez un contact avec les jeunes gens, les jeunes filles, c'est ça?
Oui, j'aide le MCF à organiser ces forums qui sont vraiment, enfin moi j'aime beaucoup, très intéressant, parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet présentation des métiers, et là, les professionnels viennent, ils tiennent un stand, ils peuvent discuter avec les jeunes, avec les parents, mais aussi ils font des conférences, et puis ils peuvent se regrouper, par exemple, les métiers de l'ingénierie, les métiers du paramédical, les métiers du droit. Donc ça permet à un jeune d'avoir des informations sur les métiers, mais aussi carrément des contacts avec des professionnels qui, en général, voilà, ont des idées qui lui correspondent aussi. Ça, c'est un volet. Et l'autre volet, c'est celui des entretiens d'orientation. Nous sommes une équipe de conseillers qui recevons les jeunes une vingtaine de minutes individuellement. On leur fait passer un tout petit test, mini test, et ensuite on les reçoit 20 minutes. Bon, voilà, c'est pas Madame Soleil, on va pas avoir l'avenir en 20 minutes, mais déjà faire un premier échange, donner des pistes et leur dire, mais écoute, tu devrais aller voir tel professionnel sur le forum, là, il fait une conférence à telle heure, vas-y. Ça donne un premier élan et ça peut vraiment aider. Et ça, moi j'aime beaucoup. On en a un premier, donc en général en octobre
Oui.
sur Paris intramuros, si je puis dire, enfin Paris même.
Oui.
Ensuite, un deuxième, alors cette année c'était dans le sud, je ne sais pas si ce sera encore dans le sud, mais on en avait un deuxième du côté de Carcassonne. En décembre, et le troisième, c'est en janvier en général, à côté de Nantes, là, à la Place Hollière. Et non, c'est génial. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux parents qui veulent souhaitent parler de leur métier qu'ils n'hésitent pas à nous contacter parce qu'on est toujours aussi preneurs de témoignages. Là, j'ai eu un contact avec un parent qui est prof de sport et qui disait ce métier n'est pas assez connu, et donc il est intervenu lors d'un des forums. Et je pense comme ça qu'il y a des métiers qu'il faut faire connaître. ça vaut la peine.
Oui, sûrement, sûrement. Et vous-même, vous devez avoir comme de grandes satisfactions, comme vous dites, lorsque vous arrivez à trouver un débouché, une orientation qui convienne vraiment à la personne. Pour vous, ça doit être. Et vous devez avoir aussi des retours. J'imagine que une certaine reconnaissance, une certaine gratitude, en se disant, ben voilà, on est sorti d'affaire alors que c'était pas gagné d'avance. Vous avez ce genre de joie.
Ah oui, ça c'est que du bonheur.
Ouais.
Déjà, c'est vrai. Le sourire au troisième rendez-vous, le sourire, parce que le premier, bon, tout le monde est un peu tendu, anxieux, ça crée des tensions dans la famille. Tu sais toujours pas ce que tu vas mettre sur le parcours, voilà, c'est pas marrant. Et quand on arrive au troisième rendez-vous ou au quatrième rendez-vous, quand c'est bien clair, que là, le jeune a le sourire, c'est sûr, tu sais ce que tu veux faire. Oui, c'est sûr. Il a été aujourd'hui porte ouverte, il sait vers quoi il va, ça va tellement mieux. Et puis après, ben oui, le bonheur, c'est d'avoir des nouvelles de ceux que j'ai orientés. Je pense à ce jeune, eh bien, qui voilà, que j'ai aidé pour aller vers une école d'architecture. Je pense à cette jeune, ah oui, qui ne savait pas du tout, enfin, ne savait pas trop vers quoi aller, vaguement du paramédical. Puis je lui ai parlé du métier d'orthophoniste. Et ça lui a bien plu. Elle fait journée porte ouverte, etc. Et maintenant, ça y est, elle a son cabinet et elle est très heureuse dans ce qu'elle fait. Alors qu'orthophoniste, c'est super dur de l'avoir. Ils prennent quoi, 5% des candidats. Il y a plus de concours. Hein. Ça aussi, j'en profite pour dire aux parents, pardon, dans le paramédical, il y a, non, je crois qu'il n'y a plus, quasiment plus, mais je dirais zéro concours. Tout se fait sur Parcoursup. Donc, c'est là où il faut être stratégique. Et puis, bon, bah, quand on est bien, c'est chouette, quoi.
Et donc, il va falloir conseiller. Et votre population, c'est, je pense pas que ce soit quand même de 7 à 77 ans, mais vous avez des gens très jeunes et puis des gens qui se sont vraiment mal orientés. On peut venir jusqu'à quel âge chez vous?
Alors, on peut venir jusqu'au choix du master, quoi, après la licence, bac plus 3. Souvent, oui, après, tu seras le choix du master, ou si on s'est trompé de master, revenir pour un choix de master. Donc, bac plus 3 ou bac plus 5. Et on commence au plus tôt en troisième, je dirais. Parce
Oui.
que si, voilà, si c'est très, très, très compliqué en classe et qu'il faut vraiment envisager une orientation professionnelle. Là aussi, on est sur des bacs professionnels qui sont très pointus,
Oui.
voilà, sur un seul métier. Donc, il faut être pertinent, il faut bien faire son choix parce que les réorientations sont compliquées. Ça, j'en ai eu à faire des réorientations, c'est parfois difficile. Donc, oui, le premier niveau d'orientation aux plus jeunes, mes petits jeunes, c'est la troisième. Là, il faut être très à l'écoute parce que c'est délicat, mais en même temps, c'est génial, quoi. Il y en a un comme ça, j'ai envoyé vers électricien.
Oui.
Il n'y pensait pas vraiment et en fait, il avait cette vision un peu technique, envie du manuel, mais en même temps de réfléchir et envie d'être dehors, de construire, etc. Et puis, ben, voilà, très heureux dans le métier d'électricien. Donc, c'est génial. En plus, il n'aura pas de problème de chômage.
Non, ça, tous les artisans ont du travail, c'est connu. Et on a beaucoup de mal d'ailleurs à avoir un artisan, tellement ils sont demandés. Nathalie
C'est
Lagan,
vrai.
un grand merci pour votre présence. Je redonne les coordonnées. Donc, vous appartenez au groupe Ton Avenir et sur un moteur de recherche, c'est tout simplement tonavenir.net. Votre adresse personnelle, c'est nathalie.lagane, Lagane, tonavenir, tout attaché.net. Et là, on peut avoir tous les renseignements dont on a besoin pour se sortir de ce labyrinthe de Parcoursup. Un grand merci. À bientôt.
Merci à vous, monsieur Lavé.
Merci
Merci, au
beaucoup.
revoir.
Merci bien. Chers amis de Radio Courtoisie, nous nous retrouvons dans le studio. Antoine Delacoste vient de me rejoindre, mais nous allons préalablement écouter un message de la radio pour la radio.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Chers amis, vous avez compris, je vous disais, c'est un message de la radio. qui vous sollicite parce que bien, nous sommes libres, donc nous ne sommes pas du tout asservis, nous n'avons aucune subvention, nous ne recevons d'aucune officine des fonds secrets. Nos fonds sont les vôtres, c'est-à-dire que c'est vous qui nous aidez. Votre générosité nous permet d'assurer cette fidélité au service de la vérité. Donc, on compte vraiment sur vous. Je dirais juste un petit mot aussi, parce que beaucoup de gens se posent des questions sur l'actualité religieuse. Bien, le mieux actuellement, s'agissant de la fraternité Saint-Pie-X, de l'éventualité des sacres du 1er, ce n'est plus une éventualité, parce que la date est tout à fait fixée, du 1er juillet, tout cela, vous pouvez trouver sur les sites de la fraternité. Pour la France, bien sûr, la porte latine. Pour le monde entier, c'est-à-dire le site de la Maison Générale, fsspx.actualité. Si vous voulez avoir les documents écrits, c'est-à-dire tous les documents qui proviennent de la Maison Générale, vous abonnez à DICI, D-I-C-I, 33 rue Galante, 75 005 Paris. Et là, pour la modique somme de 40 euros, vous avez tous les mois toutes les actualités. Et en particulier, vous aurez, outre les documents qui ont été publiés par la Maison Générale, à savoir les lettres et communiqués de l'abbé Pagliarani, vous allez avoir, ce qui est assez étonnant, des témoignages très favorables à ces sacres de la part de Monseigneur Strickland, qui est l'ex-évêque de Tyler, au Texas. Il y a aussi un témoignage très intéressant de Monseigneur Schneider, que j'ai d'ailleurs reçu à ce micro il y a quelques temps, à plusieurs reprises d'ailleurs, sur lui-même envoie une adresse d'ailleurs au pape en invitant à ce que tout se passe bien. Cela, vous allez l'avoir. Et également, alors ça c'est une surprise, c'est un prêtre espagnol, même exactement de l'île de Majorque, qui dit très simplement, en tant que canoniste, puisqu'il est canoniste, il n'y aura ni schisme ni péché. Donc, si vous aviez besoin d'être rassuré, lisez ce prêtre de Majorque, c'est très intéressant. Alors, tout ça, vous le trouverez dans DICI, D-I-C-I, 33 rue Galland, 75 005 Paris, en vente aussi, bien sûr, à Saint-Nicolas. On peut le trouver aussi à la chapelle de la Consolation. Cher Antoine Delacoste, bonjour.
Bonjour, monsieur l'abbé.
Je ne dis plus bonsoir parce que c'est une émission en matinée, comme on dit au théâtre, c'est-à-dire dans l'après-midi en l'occurrence. Alors l'actualité est très chargée, on ne peut pas le nier.
Si vous parlez de géopolitique,
oui,
certes.
Ça, on va parler. On s'offrira peut-être, si on a le temps, une petite respiration littéraire, c'est-à-dire qu'on passera de géochronique, qui est votre blog de géopolitique, à votre blog Les livres d'Antoine. Mais là, il faudra que les auditeurs soient très très gentil pour qu'on puisse faire quelque chose là. Si on est très pris par la géopolitique, c'est elle qui primera. Donc, j'ai mis comme ça un peu en vrac l'Iran, les États-Unis, on pourrait dire aussi les États-Unis, Gaza, les États-Unis, l'Ukraine, les États-Unis, Israël. On a l'impression que Trump est partout.
Trump aime ça, en plus. Il est partout, il s'agite beaucoup, avec plus ou moins de bonheur. Il connaît des échecs, des réussites. Il agit, mais on le sait bien, c'est son tempérament un peu à l'emporte-pièce, quelquefois. Même la Cour suprême, pourtant constituée de 6 amis sur 9, l'a un petit peu rembarré sur les histoires de droits de douane. C'est du Trump, c'est du Trump. Il ne faut pas voir Trump, de la façon dont en Europe occidentale, on a tendance à analyser les choses, c'est-à-dire quelqu'un qui a un plan établi et qui va agir de telle et telle façon. Autant il y avait un certain nombre de choses préparées. Il a eu 4 ans pour le faire, après la victoire sans doute volée de Joe Biden. Il a eu 4 ans pour le faire et le jour même de son intronisation et de sa prestation de serment, enfin le lendemain en tout cas, il a signé des centaines de décrets qui étaient tous prêts. Donc il y avait un certain nombre de choses préparées, mûrement réfléchies. Et puis il y en a d'autres qui sont arrivées en fonction de l'actualité, en fonction aussi de son envie du moment, qui n'est pas forcément un caprice de vieillard, comme je l'ai lu quelque part, mais qui correspond aussi soit à un instinct politique très sûr, parce qu'il faut être objectif dans l'analyse du personnage, il a un instinct politique très sûr, sinon il n'aurait pas gagné 2 fois les élections, contre ce qu'on appelle l'établissement, ce que Jean-Marie Le Pen appelait l'établissement, ce que les anglicistes appellent l'establishment, mais ça me vaudrait un euro dans le cochon. J'observe d'ailleurs, monsieur l'abbé, je vous le dis en passant, et je compte sur vous pour le faire remonter dans la plus haute hiérarchie de Radio Courtoisie, qu'il y a de plus en plus d'anglicisme sur cette chaîne.
Je le déplore comme vous.
Voilà, qu'il y a toujours le cochon au milieu, mais encore tout à l'heure, j'entendais dans l'émission sur les entrepreneurs, quelque chose comme ça, quelqu'un qui a employé au moins 4 ou 5 anglicismes. À aucun moment, la personne invitante ne lui a dit « attention, attention ». Bon, donc là, j'estime qu'il y a un rappel à l'ordre à faire.
Ah oui,
je me permets de le faire.
On peut le dire, le cochon est entre nous
mais
deux.
Mais le cochon, je le vois, le cochon.
Il est là au milieu, entre votre micro et le mien.
Et en ces temps d'islamisation croissante de notre cher pays, le cochon est un animal de plus en plus sympathique.
Alors, j'ai envie, avant qu'on voit un petit peu les relations de Trump avec l'Iran, puisque c'est ce dont on parle le plus aujourd'hui, avant qu'on parle un peu aussi de l'Ukraine, avant qu'on parle aussi, on pourrait dire aussi, le Venezuela et son pétrole, on pourrait voir beaucoup de choses. Je voudrais que vous nous disiez un petit... Vous avez fait un article, le document américain de stratégie de sécurité nationale, un basculement géopolitique majeur. Je voudrais que vous nous disiez de quoi il s'agit, quelle est la nature de ce basculement?
Tout à fait, parce que j'avais commencé sur le fait que Trump pouvait paraître quelquefois un peu désordonné, un peu impulsif et improvisant. Il y a des choses parfois improvisées, ça c'est sûr. Il y en a d'autres qui sont mûrement réfléchies. L'histoire du Venezuela, on approuve ou on n'approuve pas. Personnellement, je suis un peu choqué par cette expédition, parce que l'homme qui s'est fait quand même élire sur la fin des opérations extérieures, finalement, il en a déjà fait deux. Il a bombardé l'Iran au mois de juin dernier. Il a fait cet acte de piraterie internationale qui consiste à enlever Maduro, qui est un personnage très sympathique. Ce n'est pas une raison pour faire un acte de piraterie internationale. Et là, avec ce qui se prépare autour de l'Iran, on peut être quand même assez, assez inquiet. Et il a perdu quelques soutiens très isolationnistes et très hostiles aux interventions
dans son parti républicain,
dans son parti, dans son environnement MAGA. Il a perdu quelques soutiens à cause de ça. Il faut quand même qu'il fasse un petit peu attention. Mais ce document dont vous parlez, ce document de sécurité sur une stratégie américaine, qui est un document assez habituel en tant que tel. Tous les présidents ont sorti ce type de document. Mais là, c'est un tournant. C'est clairement un tournant géopolitique, c'est-à-dire que il répartit le monde en plusieurs zones d'influence. C'est nouveau, parce que jusqu'à présent, de par la destinée manifeste et par Dieu lui-même descendu sur terre, comme chacun sait, expliquant aux pasteurs protestants du XVIIe siècle qu'ils avaient une mission divine, c'est-à-dire de dominer le monde, eh bien depuis ce temps-là, personne aux États-Unis ne divisait l'influence américaine en plusieurs zones, si ce n'est au début, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autrement. Avec la doctrine Monroe, notamment au XIXe siècle, mais à partir du XXe, chacun sait que toutes les parties du monde les regardaient, et ils avaient un droit de regard. Et ce document, dont Trump rédige l'introduction, enfin rédige, a signé l'introduction, et pour le reste du texte, c'est fait par des conseillers, donc, qui sont ses conseillers en matière de politique internationale, divise le monde en trois, grosso modo, c'est-à-dire qu'en quatre même. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il appelle l'hémisphère occidental, c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ça, c'est à l'Amérique, point. Et c'est pour ça que le Groenland, il considère que c'est à lui, parce que géographiquement, le Groenland est près de l'Amérique du Nord.
C'est pas de l'Atlantique à l'Oural,
et non,
c'est
non,
du Groenland au Venezuela,
du Groenland
en tout cas.
À la Terre de Feu, même. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'Asie. L'Asie ou la Chine, et là, ils le disent, la Chine, c'est un concurrent, mais ce n'est pas forcément un ennemi. Ils sont assez prudents dans les termes. Et j'invite les auditeurs intéressés par se procurer ce texte sur Internet. C'est très facile. Je ne l'ai pas trouvé en français, mais il existe en anglais, c'est un anglais assez simple, même moi j'ai réussi à le comprendre, donc tout le monde peut le comprendre. Eh bien, il y a une sorte de, pas de quitus, mais tout proche, pour envahir Taïwan. C'est-à-dire qu'il est écrit explicitement que si la Chine envahit Taïwan, ça ne touchera pas les intérêts vitaux de l'Amérique. Sous-entendu, on fera rien. Étonnant. Et puis évidemment, il y a toute une partie sur l'Europe,
oui.
L'Europe décadente, l'Europe vieillissante, l'Europe qui va disparaître. C'est assez méprisant sur l'Europe, mais je crains malheureusement que ce soit un mépris assez juste.
C'est ce qu'a déjà laissé entendre J.D. Vance lors de cette
alors, vous discours. Êtes très, très indulgent en disant « laisser entendre ». Il l'a dit assez crûment.
Et ça a été répété.
Et ça a été, mais c'est terrible depuis un an, depuis ce fameux discours de J.D. Vance à Munich, un brillant discours. Hein. Il dit « messieurs, arrêtez de penser à la Chine et à la Russie tous les jours ». Ce qui est un peu facile, parce qu'entre parenthèses, les Américains pensent à la Chine tous les jours. Mais bon, arrêtez de penser à ça tous les jours. Ce ne sont pas forcément vos ennemis. Très bien, on est bien d'accord. Votre ennemi est à l'intérieur. Alors, nous sommes mille fois d'accord.
Mmh.
Et notre ennemi, il est double, on sait bien. C'est des millions d'immigrés clandestins, ou pas d'ailleurs, qui pourront devenir un ennemi mortel pour le peu qui reste de l'Europe chrétienne. Et puis également, l'autre ennemi intérieur, bah, le gauchisme, le wokisme,
voilà.
C'est un discours extrêmement intéressant pour tout ça. Donc, Vance, et alors ce qui est intéressant, c'est que Marco Rubio, son peut-être futur concurrent pour la prochaine élection présidentielle américaine,
a dit la même chose dans
3 ans, a dit la même chose, mais alors lui, c'est un diplomate, puis il est issu de l'établissement américain, hein, c'est pas Vance qui vient de nulle part en réalité. J'invite d'ailleurs les lecteurs à lire Hillbilly Elegy, toute sa jeunesse, c'est très très intéressant.
Il faut dire, c'est quelqu'un qui vient vraiment de milieux très très populaires, plutôt que défavorisé.
Mais complètement. Un père qui a été mis à la porte par sa mère, qui a eu 7 ou 8 hommes à la maison successifs, et lui disait, mon père est parti, mais je l'ai à peine connu, j'étais trop petit. Le deuxième, le troisième, je m'attachais à chaque fois à eux, parce qu'ils étaient gentils dans l'ensemble, puis ma mère les mettait à la porte. Alors j'ai cessé de m'attacher, c'est terrible. Et sa mère, qui a commencé alcoolique, a fini droguée. Et lui, avec sa sœur, heureusement il avait une sœur, ça l'a beaucoup aidé quand même. Ben, ils se soutenaient et ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils ont aidé leur mère gentiment. Mais heureusement, il y a eu des grands-parents.
Mmh.
Ils étaient un peu dingues. Elle, sa grand-mère, c'était un genre calamity de gêne pour ceux qui aiment Lucky Luke. Elle se promenait vraiment avec son fusil à certains moments. Dans les rues de cette petite ville de l'Ohio. Mais tout en étant un peu déjantés, parce qu'ils étaient un peu déjantés, soyons clairs, ils avaient beaucoup d'affection pour leur petite fille, leur petit-fils. Ils ont été pleins d'amour et ça les a sauvés. Ça leur a donné un équilibre sentimental, en réalité, de l'enfance qui leur a évité de partir en vrille. Et puis un jour, 2 ou 3 professeurs lui ont dit « Vous êtes très intelligent, vous devez réussir ». Et il s'est dit, alors s'ils me disent que je suis intelligent, je vais me mettre au travail. Il a travaillé comme un fou, il est arrivé là où il est arrivé, pas par hasard. Il a fait la célèbre université de Yale, alors qu'il sortait de nulle part. Il fallait quand même avoir des qualités intellectuelles assez exceptionnelles. Bon, je ferme la parenthèse sur J.D. Vance.
Et il faut dire peut-être aussi que c'est un homme de foi.
Il est
intelligent, mais...
Il pensait pas du tout à la religion quand il était adolescent. Et puis, ça l'a intéressé petit à petit. Et finalement, à l'âge adulte, à l'âge étudiant, au moment où il a rencontré sa future épouse, qui n'était d'ailleurs pas chrétienne, eh bien, il s'est posé des questions. Il a rencontré un intellectuel très connu aux États-Unis qui s'appelle Rod Dreher, qui a écrit plusieurs livres traduits en France, notamment « Comment vivre clandestinement en chrétien ». C'est très intéressant. Mais Rod Dreher est orthodoxe.
Oui.
Alors, J.D. Vance l'a écouté avec intérêt. Et puis, son père, il a fini par revoir quand même. Il était gentil, son père. C'est sa mère qui était déjantée. Et donc, son père l'a emmené au temple. Il a dit, mais ce truc, c'est pas du tout pour moi. Il a beaucoup réfléchi et il a lu Saint-Augustin.
Voilà.
Il a lu Saint-Augustin et là, il s'est dit, mais c'est ça, en fait. C'est ça, c'est le catholicisme. Il a dit à son ami Rodrigue, je suis désolé, je n'irai pas. Dans la religion orthodoxe, j'irai dans la religion catholique et Rod Dreher, très, très sport, comme on fait aux États-Unis,
lui a dit, mais vas-y. Je ne dis pas faire plaisir, parce que ça va nous coûter une fortune.
Ça va nous coûter très cher, monsieur. Et donc, Rod Dreher lui a dit, va vers le catholicisme. Et c'est un catholique vraiment, vraiment convaincu, même s'il n'a pas encore toutes les clés. Mais, ouais.
Mais il peut citer du saint Thomas, en particulier sur les problèmes d'immigration et de charité bien ordonnée qui commence par soi-même. Mais
exactement.
Il peut citer du saint Augustin aussi.
Oui, je pense que la route vers un développement complet de ces idées catholiques est encore
largement ouverte. Ça nous fait rêver, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas vraiment M. Lecornu citant saint Augustin.
Hein, ça va être complexe, ça, oui. En effet.
Alors, cette petite parenthèse est très intéressante. Et Rubio, lui aussi.
Rubio, justement, lui aussi, lui, il a fait de façon plus policée. Comme je disais, il vient de l'établissement. C'est le secrétaire d'État de Trump. Lui, très, très interventionniste, soutenant à 100% l'agression contre le Venezuela. Et manquait les mêmes choses pour Cuba. Alors, quand je dis agression, que l'auditeur ne croit pas que j'ai de la sympathie pour Maduro, ne croit pas que j'ai de la sympathie pour le régime communiste cubain, où les gens vivent dans une misère épouvantable. Mais enfin, ces pays ont été aussi étouffés par les sanctions américaines. Et puis, moi, ce qui me gêne, c'est que l'Amérique recommence à s'arroger le droit de savoir qui a le droit d'être au pouvoir et qui n'a pas le droit d'être au pouvoir. C'est extrêmement gênant. Et donc, quand J.D. Vance a dit « Vous avez des problèmes de démocratie en Europe, les élections en Roumanie... c'est un gros problème, vous avez finalement annulé une élection qui était parfaitement valable. On adhère à 100%, oui. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais au fond, alors ils disent Maduro a triché, oui, mais à ce compte-là, à quel moment on n'intervient pas. Et ça, c'est extrêmement dérangeant quand même. On pensait, c'est ce qu'il avait dit en tout cas, qu'avec Trump, le niveau d'intervention cesserait. On arrêterait de décréter qui gouverne, qui gouverne pas, où l'Amérique doit rétablir l'ordre. Et après le Venezuela, et après, il va y avoir l'Iran bientôt, peut-être, on ne sait pas. Mm-hmm. Mais enfin, c'est incorrigible, Amérique, il n'y a rien à faire.
Alors vous disiez, Antoine Delacoste, et ça on peut vous lire sur votre blog Géochronique, avec un S, vous disiez 3 ou 4 blocs, donc on a compris l'Asie, bien sûr, le continent africain nord-sud, l'Europe, et quel serait alors à ce moment-là un petit peu le quatrième? Est-ce qu'il y aurait...
On a dit Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe, Russie et l'Afrique.
Voilà.
Il a un paragraphe sur l'Afrique, alors un petit peu plus court parce que Trump a beau dire qu'il méritait le prix Nobel, je ne comprends pas sa fascination pour le prix Nobel. Vu les gens qui ont eu le prix Nobel, alors franchement, on n'a pas envie d'y concourir. Mais c'est lui qui a dit qu'il avait fait la paix entre le Congo et le Rwanda, la belle affaire, qu'il avait aidé le Nigeria à combattre les islamistes. Ce n'est pas très sérieux tout ça. La guerre peut reprendre demain entre le Congo et le Rwanda. En réalité, il a obtenu des concessions pour des mines. En échange de beaucoup d'argent. Et après, il dit, j'ai fait la paix. Tout le monde a été arrosé d'argent. Et tout le monde a dit, bon, allez, on va arrêter quelques temps pour faire plaisir à Trump, parce qu'il nous a distribué quelques millions de dollars. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il faut arrêter de se leurrer. Et je pense que même les Nobel sont au courant, c'est vous dire. Et en ce qui concerne le Nigeria, bon, oui, là, ils ont bombardé quelques islamistes, mais ils ont fait comme ils ont fait en Afghanistan, comme ça, un peu à la va-vite, à l'aveugle. Et ça changera, mais strictement rien. Et les chrétiens continuent de se faire massacrer au Nigeria. Et parmi les chrétiens, il y a aussi bien des protestants évangéliques que des catholiques. Il y a des paroisses entières qui se font exterminer par des islamistes dans le nord-ouest du pays. Et pour ça, on ne fait rien. Alors, ils en parlent un petit peu, gentiment, disant qu'il y a des problèmes de persécution des chrétiens là-bas. Mais dans le même temps, ils soutiennent le régime islamiste syrien. Ils ont combattu Bachar el-Assad pendant des années. Bachar el-Assad avait ses défauts. Je l'ai dit plusieurs fois, le régime était complètement corrompu. Et Bachar lui-même, même s'il a été courageux pendant la guerre, a été terriblement décevant après. Mais les chrétiens vivaient tranquillement. Il y avait même des ministres chrétiens, des députés chrétiens. Et à part des exactions de Daesh de temps en temps, finalement, ça ne se passait pas trop mal pour les chrétiens. Et tout à coup, arrive... Al-Johani, l'ancien chef islamiste reconverti avec son costume cravate en chef d'État fréquentable, il sort de la province d'Idleb, il arrive, l'armée syrienne, puisque les Russes ne sont plus là pour encadrer, ils sont en Ukraine, s'effondre, minés par la corruption, des salaires misérables aussi. Et puis, il ne faut jamais oublier, quand on s'interroge sur cet effondrement de l'armée syrienne, sur le fait que les meilleurs officiers sont morts pendant la guerre civile. Enfin, la guerre civile, c'était au tout début une guerre civile. Après, c'était le grand djihad international. Ça aurait pu alerter les autorités européennes, notamment sur le fait que le djihad venait du monde entier pour combattre Bachar al-Assad, mais non. Tout le monde a trouvé que c'était normal d'être dans le camp du djihad international. Très bien. Mais en attendant, moi qui ai lu beaucoup, beaucoup de récits sur cette guerre,
et
les meilleurs officiers alaouites et chrétiens sont
là
morts.
Là aussi, voilà, il y a des chrétiens persécutés en Syrie, il y a les Druzes.
Alors, les Druzes, on ne va pas pleurer dessus. Alors là, que les Druzes règlent leur compte avec les islamistes, les Druzes se sont toujours comportés de façon ignoble avec les chrétiens, alors qu'on ne compte pas sur moi pour verser un quart de demi-larme sur les Druzes, dont il faut rappeler, si je choque des auditeurs, qui regardent le génocide arménien en 1915, organisé par les Turcs. Qui étaient les hommes des basses œuvres? C'étaient les Kurdes. Qui prenait des femmes arméniennes pour les violer et les crucifier? Les crucifier. Il y a eu des milliers d'arméniennes crucifiées que l'on voyait sur les routes, c'étaient les Kurdes. Et qui, ensuite, a volé les maisons des Arméniens assassinés et déportés? C'étaient les Kurdes. Pourquoi dans le sud-est de la Turquie, toutes les maisons sont occupées, enfin toutes les maisons, il y a énormément de maisons occupés par des Kurdes, croyez pas qu'ils les aient construits, ce sont les Arméniens qui les ont construits. Ils ont été tués et déportés par les Kurdes qui ensuite ont volé leur maison. Donc ce sont les grands-parents des actuels Kurdes. Et bien qu'ils soient pris une volée par les islamistes, je dois dire que c'est pas volé. Voilà,
que le lecteur me pardonne. Et c'est ce que vous dites souvent,
de cette petite envolée.
Il faut bien penser que l'islam n'est pas monolithique, n'est-ce pas? On sait, il y a le sunnisme, il y a le chiisme, et puis il y a quantité d'ethnies, de sectes, et ils se détestent cordialement.
Ah oui, tout à fait. Mais alors là, il faudrait être spécialiste de l'islam pour pouvoir en parler savamment comme... comme le font certains, y compris à cette antenne d'ailleurs. Il y a des gens très brillants parfois. Moi, je ne suis pas islamologue, donc...
Mais ce qui est sûr,
c'est pas du tout monolithique. Déjà, il y a les chiites et les sunnites, déjà, qui se détestent. Il y a autant de sang entre les chiites et les sunnites, voire plus qu'entre les catholiques et les protestants. C'est vous dire. Au fond, c'est pareil. C'est pareil chez eux, mais pour des raisons qui sont parfois plus politiques que religieuses. Chez nous, c'est purement religieux, parce que... rendez à César ce qui est à César. Eux, ils n'ont pas ça. Et donc, souvent, c'est politique. Mais vous voyez, les Alaouites, parce que je pense que c'est ça qui a fait le lien dans votre esprit, les Alaouites de Bachar el-Assad, c'est une secte musulmane. Secte pas au sens la secte Moon, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le monde de l'islam. Et c'est une religion extrêmement originale, complexe, difficile à comprendre, parce que il y a pas de mosquée, il y a pas de clergé. Ils croient en Allah de façon assez floue quand même, mais ils aiment bien les chrétiens. Si on leur dit la Sainte Vierge Marie, très très bien. Le jour de la Pâque, dans les villages où il y avait moitié alaouite, moitié chrétien, mais là je vous parle de l'ancien temps, hélas. Le jour de la Pâque, ils s'invitaient tous les uns les autres et ils buvaient du vin pour fêter Pâques. Et les alaouites n'étaient pas les derniers à lever le coude, comme on dit. Donc c'est une religion très particulière, simplement. Ils avaient besoin d'une protection et ils ont demandé aux chrétiens d'être rattachés à l'Église chrétienne au XIXe siècle. Fait peu connu. Et donc, ils ont dit, vous savez, au fond, on est très proche des chrétiens. Nous, on a l'habitude, on les connaît bien dans nos villages. Et le Vatican a trouvé que là, c'était un peu exagéré quand même. Et que donc, il y avait quelques démarches complémentaires à faire sur le plan intellectuel, liturgique, etc.
On n'était pas dans le dialogue œcuménique et interreligieux.
Voilà. Aujourd'hui, voilà. Ça passerait sans problème, mais non, là, ça n'a pas fonctionné. Et donc, les alaouites se sont tournés vers les chiites, parce qu'avec les sunnites, ils savaient que ça ne marcherait pas. Et ils sont tournés vers les chiites en disant, finalement, vous savez, on est des chiites. Les chiites ravis en disant, mais bien sûr, vous êtes des chiites. Allez, hop. Et ça faisait un allié pour les chiites contre les sunnites. Ouais. Et donc tout ça est un rapport de force où au fond le dogme religieux joue assez peu. Ouais. C'est toute la complexité de l'islam.
Alors le dogme joue peut-être un petit peu plus, à peine plus, j'en sais rien, en Iran, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un article, c'est la question que tout le monde se pose actuellement, mais vous l'avez écrit il y a déjà un moment, est-ce que le régime des Mollahs va tomber?
Alors jusqu'à présent, moi je dis non. Pour plusieurs raisons, et c'est ce que j'avais expliqué à mes compagnons de voyage il y a 18 mois en Iran. On était déjà au milieu d'émeutes, beaucoup moins violentes, parce que Sinon, on n'aurait pas pu y aller. Mais on était déjà au milieu de grandes manifestations. On voyait les forces de l'ordre réparties un petit peu partout, des manifestants. Et mes compagnons de voyage, pleins d'espoir, me disaient « Bon, ça va tomber, là, c'est bon, le peuple est contre. » Je dis « Mais c'est pas la question, le peuple est contre. » Bien sûr qu'en majorité, il est contre, pas en unanimité, mais...
On dit que récemment, il y a encore des étudiants qui ont relevé la tête.
Oui, mais ils vont se faire tirer dessus. Ils vont se faire tirer dessus, ils vont se faire arrêter, ils vont se faire fusiller. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il y a un corps de gardiens de la Révolution de 120 000 personnes, parfaitement armées, qui se sont enrichis grâce au régime. Les dirigeants des gardiens de la Révolution sont millionnaires grâce au régime. Et parce que c'est eux qui organisent l'économie iranienne. Ce sont eux. Donc, il n'y a rien à faire contre ça. Vous pouvez mettre 500 000 manifestants. Si en face, vous mettez 10 000 personnes qui tirent à balles réelles, eh ben, 500 000 personnes, elles reculent au bout d'un moment parce qu'ils ont 500 morts, 1 000 morts, et puis ils s'arrêtent. Au bout d'un moment, c'est humain, on s'arrête.
Oui.
Et là, il y a eu au moins 10 000 morts. Au moins 10 000 morts par des tirs à balles réelles de la police, des gardiens de la Révolution. L'armée reste un peu à l'écart. Donc, je dis depuis le début, c'est pas possible. En plus de ça, renverser le régime pour mettre qui à la place? Alors, il y a le chat qui s'agite.
Reza.
Aux États-Unis. Aux États-Unis. Le premier message qu'il avait fait, c'était en anglais. Alors, depuis, il l'a fait en farsi, quand même.
On dit qu'on cite son nom dans les manifestations.
Mais oui, alors, parce qu'ils essayent de se raccrocher à quelque chose. L'ayatollah Khomeini, il était là, à Naufle-le-Château, accueilli par la France. Et donc, on attendait qu'une chose. Enfin, les Iraniens attendaient qu'une chose, c'est qu'ils reviennent. Les malheureux, quand on pense que dans les manifestations iraniennes de 1979 pour renverser le Shah, mais vous aviez bien moins que la moitié des islamistes, bien moins de la moitié. Et vous aviez les moudjahines du peuple qui étaient proches du parti communiste iranien, et vous aviez beaucoup de gens qui étaient tout simplement hostiles au Shah parce qu'ils trouvaient que c'était une tyrannie, et ils ne savaient pas vraiment ce que c'était qu'une tyrannie, parce que le Shah, ce n'était pas la démocratie, mais il ne faut pas exagérer, hein, ce n'était pas non plus épouvantable, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, grosso modo. Donc ils se sont fait manipuler, et après, tous ces gens-là ont été pendus, la répression a été terrible après. La répression qu'on vit aujourd'hui, il faut bien avoir en tête qu'elle n'a rien à voir avec celle de 1979. Après le triomphe des Mollahs, ils ont pendu, mais des dizaines de milliers de personnes. Tous ceux qui avaient un lien avec le régime, tous ceux qui n'étaient plus d'accord avec eux, et c'est incroyable le nombre de gens qu'ils ont pu pendre. Et donc, ça n'a pas marché en 79, une fois que les Mollahs sont arrivés au pouvoir. Aujourd'hui, pratiquement pour les mêmes raisons, ça ne peut pas marcher. Sauf si, tout à coup, il y a une intervention extérieure. Et c'est là où on revient à toute l'armada. Alors, l'invincible armada est là, avec ses 2-3 porte-avions et ses quelques dizaines de, je ne sais pas quoi, de destroyers, de corvettes, je ne suis pas spécialiste, enfin, toute une série de bateaux qui sont là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, il y en a tellement, je me dis, pour s'en servir au bout d'un moment quand même. On disait la même chose pour Poutine en 2022. Là, il a accumulé 100 000 hommes le long des frontières de l'Ukraine. On avait du mal à y croire, mais quand même, c'est curieux, 100 000 hommes le long des frontières de l'Ukraine. Et là, autant de gens, mais alors que va-t-il faire? Il ne va pas débarquer 100 000 hommes sur le sol iranien. Il en faudrait au moins 1 million. Donc, ça ne se fera pas. Parce qu'il y a du monde en Iran, c'est un pays de 90 millions d'habitants. Je vous ai parlé des 120 000 gardiens de la Révolution, mais il y a l'armée. Ça fait du monde tout ça. Puis ils ont des missiles. Et bon, c'est pas l'Irak, hein. C'est un autre niveau quand même. Là.
Des missiles à portée d'ambassade américaine, paraît-il.
Alors, déjà. Et puis il y a le Koweït, il y a le Qatar, il y a Bahreïn, il y a tous ces pays-là, l'Arabie Saoudite même. Heureusement, l'Arabie Saoudite a pris la précaution de se réconcilier avec l'Iran il y a 2 ans pour éviter ça. Mais bon, et puis derrière, il y a Israël. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans l'intervention de Trump de juin dernier, vous savez, les Israéliens ont bombardé l'Iran et ensuite les Américains ont envoyé leurs avions furtifs. Opération réussie à moitié, on a dit chef-d'œuvre, magnifique. Non, opération réussie à moitié dans la mesure où tous les avions furtifs sont arrivés à bon port et après sont repartis à bon port. C'est vrai. Et ils ont bombardé. On n'a jamais su exactement quelle avait été la réussite des bombardements. Ça reste extrêmement flou. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est ce qu'on n'a pas assez souligné, c'est que les missiles balistiques envoyés par l'Iran on saturait, comme d'ailleurs avait fait lui-même le Hamas, qui était quand même beaucoup moins sophistiqué, on saturait le dôme de fer israélien, ce fameux dôme de fer infranchissable, tu parles, était largement franchissable, et ils ont fait mais des ravages dans plusieurs villes israéliennes, des quartiers entiers de Tel Aviv, des quartiers entiers, mais dans des amas de décombres. Alors les Israéliens ont coupé Internet à toute vitesse pour pas qu'il y ait trop de photos qui circulent, mais enfin, ça a duré un quart d'heure avant qu'ils coupent, donc il y avait quand même des photos. On a vu des ruines, on a vu tout ça. Et lorsque, il y a quelques mois, Trump a dit « bon, je vais remettre un coup sur l'Iran », contrairement à toutes ses promesses électorales qui recommencent à violer, c'est pas bien, eh bien, les Israéliens, ce sont eux, fait qui a été souligné un petit peu par la presse américaine, et pas beaucoup par la presse française, qui vraiment n'a pas grand-chose à dire, et ne dit d'ailleurs pas grand-chose, eh bien, ça a été souligné par la presse américaine, ce sont les Israéliens qui ont dit « ah non, 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 on va se reprendre des missiles balistiques sur la figure, et on n'a pas du tout envie, donc il faut mieux préparer ça ». En réalité, cette guerre du mois de juin, ces bombardements de 2-3 jours, c'est match nul, hein. C'est pas une victoire écrasante américaine, c'est match nul. Et depuis, les Israéliens craignent énormément les missiles balistiques iraniens.
Mais l'uranium enrichi, est-ce que ça a été détruit ?
Alors, il semble que non. Certains oui, d'autres non. Les plus profondément enterrés, non. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que l'autre jour, il y a 2-3 jours, il n'y a pas très longtemps, il y a un ministre iranien qui a dit « mais vous savez, nous ne cherchons pas la bombe nucléaire ». Il a voulu, c'est un signal envoyé aux États-Unis. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'industrie nucléaire civile. Bon, alors évidemment, les auditeurs diront, il est naïf cet Antoine de Lacoste. Évidemment que c'est pour faire la bombe derrière. Peut-être. Mais si Trump n'avait pas dénoncé en 2015 l'accord de Vienne, qui avait été fait avec tant de difficultés, sous l'égide des Russes, et malgré l'opposition forcenée de Laurent Fabius, eh bien cet accord de Vienne, il avait 1000 vertus. Et il permettait de contrôler les installations nucléaires iraniennes. Et d'ailleurs, les Israéliens ont détruit il y a 15 ans, 20 ans, une usine nucléaire en construction en Irak qui devait servir aux Iraniens, faite par les Français. Et c'était les Français qui donnaient le nucléaire civil tout en gardant, ils ne donnaient pas la technologie, mais tout en gardant la maîtrise de la construction, c'était la France qui construisait. Et les Israéliens ont rasé en disant « mais non, mais c'est même pas une question de bombe nucléaire ou pas. Ils n'auront pas de nucléaire du tout, même civil. C'est comme ça. » Et les Iraniens disent « Nous, on veut juste le nucléaire civil. » Peut-être qu'ils mentent. Hein, je ne veux surtout pas avoir l'air naïf, évidemment, que probablement ils mentent. Mais qu'est-ce qui empêchait de continuer l'accord de Vienne ? Non, Trump s'est laissé emporter parce qu'il est atteint d'un tropisme pro-israélien. Un tout petit peu moins maintenant depuis l'épouvantable destruction de Gaza et la recolonisation de la Cisjordanie qui se fait dans des conditions mais parfaitement scandaleuses, sans parler des agressions multiples que subissent les chrétiens de Jérusalem par des colons juifs, des extrémistes juifs de plus en plus déchaînés. C'est très compliqué, il faut bien mesurer à quel point les autorités israéliennes, les colons israéliens, sont fanatiquement non seulement anti-musulmans mais anti-chrétiens. J'ai encore des amis, les fins de dîner sont parfois difficiles, qui me disent mais Israël défend l'Occident. Mais arrêtez, d'abord les Hébreux ne sont pas des Occidentaux, donc il faut arrêter avec cette fable. Et puis ensuite, ils défendent quoi ? Mais rien du tout. Les musulmans qui sont chez nous ne viennent pas de Palestine, c'est un nouvel ordre. Statistique très claire sur le sujet, si les Palestiniens représentent 0,1% des immigrés en France, c'est le maximum. Donc il faut arrêter avec cette fable, c'est la frontière de rien du tout, Israël. Ce sont eux qui veulent exterminer tout le monde autour d'eux pour avoir la paix.
Alors justement, je voudrais faire valoir vous avez deux articles, toujours donc sur Géochronique, votre blog de géopolitique, et il y en a un et l'autre semble être la réponse. Vous vous demandez à un moment, est-ce que la paix est possible avec Netanyahou ? Et puis après, vous avez un article, c'est la victoire d'Israël.
Ah mais Israël a gagné pour l'instant.
Voilà. C'est ça.
Alors Israël,
c'était ça. Il n'y a pas de paix possible du moment qu'ils ont remporté la victoire.
Oui, c'est ça. Alors autant contre l'Iran, ils n'ont pas remporté la victoire, comme je vous l'ai dit. Autant ils ont détruit le Hezbollah, tué son chef. Ça, c'était un exploit technologique, faut être objectif. Donc, tout en ravageant le Liban Sud et en annexant une partie du Liban Sud, rien ne les arrête. Ils préparent le Grand Israël, hein, le fameux Grand Israël. Ensuite, ils ont aidé à la destruction du régime syrien. contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'offensive islamiste. Ils l'ont soutenue, puisqu'ils ont empêché les renforts des milices chiites irakiennes d'arriver, alors qu'il pouvait y avoir 10 ou 20 000 hommes, ce qui aurait tout changé, qui arrivaient. Les Israéliens ont dit, si vous sortez d'Irak, on vous extermine à coups de F-16. Et ils les auraient évidemment exterminés à coups de F-16, parce qu'ils ont une aviation tout à fait remarquable. Donc ils ont contribué, ils ont largement aidé à la destruction de la Syrie et à l'instauration d'un régime islamiste. Donc ils ont gagné contre la Syrie, ils ont gagné contre leurs ennemis au Liban, le Liban Sud. Ils ont quand même plus ou moins gagné en Irak, puisque grâce à George Bush, l'Irak est un champ de ruines dont elle ne se relève pas. Et finalement, aujourd'hui, eh bien, leurs principaux adversaires sont à terre, sauf l'Iran. Mais depuis leur semi-défaite de l'année dernière, où les missiles balistiques iraniens n'ont pas été arrêtés et ont fait des destructions terribles, ils sont bien embêtés avec cette affaire. Alors, je ne sais pas ce qui se dit entre Netanyahou et Trump en ce moment, mais ça doit être extrêmement intéressant. On y va, on n'y va pas, mais il faut être sûr que les missiles balistiques ne partent plus. Et finalement, le nucléaire devient le prétexte, mais à peine. Maintenant, c'est renverser le régime. Ben oui, mais renverser le régime, comment ? Comment on renverse 120 000 gardiens de la Révolution ? J'attends ça avec intérêt. Ils peuvent toujours raser Téhéran s'ils veulent, hein, ils y arriveront, comme Israël a rasé Gaza. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Téhéran, c'est des millions d'habitants, donc que vont-ils faire ? C'est la grande inconnue. On attend ça avec beaucoup, beaucoup de curiosité.
Et vous, pour vous, la leçon de ce conflit, c'est que le dôme protecteur n'est pas efficace ?
Alors, à partir du moment où le Hamas, c'est quand même pas les ingénieurs iraniens, c'est pas le sommet quand même de l'intelligence humaine. À partir du moment où ils ont réussi, avec des petits missiles de confection assez rudimentaire, c'est par le nombre, ils en ont envoyé des milliers et des milliers en même temps.
Ils saturent le ciel.
Ils ont saturé le dôme.
Ouais.
C'est faiblard, hein, finalement, comme réponse. Et donc, le fameux dôme qui a coûté des milliards de dollars, c'est l'Amérique qui a payé, d'accord, mais quand même, des milliards, il n'a pas montré une très, très grande efficacité. Et finalement, raser Gaza, très bien, ils ont fait comme les Américains à Dresde en 1945 et autres, c'est-à-dire on balance des tapis de bombes, on tue tout le monde, ça n'a aucune importance. Dans l'eau, on va tuer les militants aussi. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont évidemment tué beaucoup de militants du Hamas. Ils ont tué 10 fois plus de civils, de femmes, d'enfants, mais ça leur pose aucun problème. Simplement, quand ils ont envoyé des hommes après pour finir le travail, qui est censé être terminé. Ils ont eu des dizaines et des dizaines de morts. Et aujourd'hui, les soldats israéliens qui ont vu les horreurs épouvantables qui ont été faites par les bombardements israéliens, et eux-mêmes, ce qu'ils ont subi dans les tunnels, parce qu'il restait des gars du Hamas, malgré tout, qui leur tiraient dessus, ils ont eu quand même un nombre de pertes significatives. Eh bien, aujourd'hui, il y a une dépression très profonde chez tous les soldats qui ont participé, alors pas les commandos, pas les professionnels, mais chez tous les réservistes qui ont été appelés par centaines de milliers, vous avez un taux de suicide gigantesque en ce moment, gigantesque, de gens qui ont vécu ça et qui ne s'en remettent pas parce que ils voyaient tous les cadavres des bébés, des femmes, de tout ça. Il faut avoir le cœur bien accroché en disant on a fait ça et on est fiers d'avoir fait ça. C'est pas facile quand même. Le nombre de crimes de guerre est... Il faut se rappeler aussi des deux dernières églises chrétiennes de Gaza. L'une orthodoxe, l'autre catholique, les deux attaquées.
Ouais.
Les deux attaquées, quand même. Avec, dans l'église orthodoxe, près de 30 morts. Alors qu'il doit rester peut-être même pas 1000 fidèles. Ça fait mal au cœur, quand même.
Est-ce que vous permettez qu'on offre une petite respiration littéraire aux auditeurs de Radio Courtoisie et qu'on passe de géochronique, donc votre blog de géopolitique, au livre d'Antoine. Là, c'est votre blog de promenade littéraire, on veut dire. Vous offrez presque toutes les semaines, en tout cas au moins 2 ou 3 fois par mois, une fiche de lecture. Alors, j'ai une question très indiscrète à vous proposer. Est-ce que vous avez un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice ? Parce que habituellement, les articles sont signés Antoine Delacoste, et là, il y a un article qui est signé Gabi Livre.
Alors, Gabi,
je vous lis attentivement.
Gabi Livre, Gabi, c'est mon petit-fils qui s'appelle Gabriel et qu'on appelle Gabi dans la famille. C'est lui qui fait la mise en ligne. Il a dû faire une petite erreur technique.
Ah, c'est très bien. On sait tout. Alors, donc, ça n'est pas lui qui a écrit.
Non. Je suis pour l'instant le seul coupable.
D'accord. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que vous avez fait apparaître là depuis quelque temps ce que la bonne librairie, la bonne maison d'édition, les belles lettres, édite, c'est-à-dire Woodhouse, que tous les amateurs d'humour anglais apprécient. Donc là, vous aussi, apparemment, vous aimez.
Eh ben oui, écoutez, je me suis laissé avoir parce que moi, j'avais lu Woodhouse, c'est quand même un auteur anglais très très connu. J'avais lu sa grande série des Jeeves il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. J'avais trouvé ça amusant sans plus. Et puis, il y a un an, je donnais une conférence chez des catholiques à Pouilly, au lieu du catholicisme français. Et là, à la sortie de ma conférence, qui était sur la guerre en Ukraine, il y a un monsieur extrêmement gentil qui me dit « Cher monsieur, votre blog de littérature est très bien, mais il manque Woodhouse ». Donc, je lui raconte mes malheurs avec Jeeves, et lui me dit « Oui, mais tout ça, c'est parce que vous n'avez pas lu « La citrouille a besoin de vous ». Cher monsieur, lisez « La citrouille » et vous allez voir, vous allez passer un délicieux moment. Il avait raison, cet homme. Alors, j'ai mis quelques mois parce que j'ai un problème de lecture un peu chargé. Et les belles lettres, à ce moment-là, l'ont réédité. Quelle chance, je me suis dit, c'est un signe du destin. Il est temps de lire « La citrouille a besoin de vous ». Et donc, c'est très drôle, ce titre étrange pour satisfaire la curiosité de l'auditeur. Vient du fait que dans La citrouille a besoin de vous, ce sont donc les aventures d'un châtelain. Un châtelain qui n'aime pas beaucoup travailler ni s'occuper d'affaires difficiles. Il veut juste chasser et puis sinon qu'on le laisse s'occuper de son jardin. Et il veut gagner tous les prix des plus beaux fruits et légumes du comté. Et il a à peu près tout gagné sauf le prix de la plus belle citrouille. Alors donc, avec son jardinier, ils ont décidé de mettre le paquet pour cette fois gagner le prix de la plus belle citrouille. Et patatras, il s'est passé un événement terrible avec le jardinier et il a renvoyé le jardinier sous un coup de colère. Et la citrouille, à ce moment-là, orpheline, a dépéri. Et donc, il écrit au jardinier qui s'est réfugié dans la banlieue de Londres, « Revenez, revenez, j'ai fait une erreur, je me suis emporté, revenez. » Pas de réponse. Et donc, il envoie plusieurs messages et à la fin, « Cher ami, la citrouille a besoin de vous. » C'est très joli. Et alors, vous avez 200 pages, là, délicieuses. C'est très fin, c'est de l'humour anglais. Autant en géopolitique, l'Angleterre est peut-être le pays que je déteste le plus. Enfin, on pourrait faire un concours avec les États-Unis, mais bon. Mettons quand même que l'Angleterre, qui a une antériorité supplémentaire par rapport aux États-Unis, remporte le premier prix. Mais il leur sera beaucoup pardonné parce qu'ils ont des auteurs, des écrivains absolument étonnants, de George Eliot à Elizabeth Goodge, en passant par Anthony Trollope et Woodhouse. Il y a des choses absolument délicieuses dans la littérature anglaise.
Et j'ai remarqué d'ailleurs que vous n'aimez comme auteur américain que ceux qui sont le plus anglais.
Vous avez remarqué Henry James, par exemple.
Par exemple, exactement.
C'est vrai.
Alors, pour dire aux auditeurs que vous ne vous contentez pas de recenser des ouvrages de 1924, parce que La citrouille a besoin de vous, de Woodhouse et de 1924, 100 ans après, 2024, vous nous proposez Le grand pèlerinage de Henri Temple, Les deux prophéties aux mains. Là, c'est autre chose.
Incroyable. Henri Temple, donc, c'est un historien contemporain qui, je pense, doit avoir 60 ans, 70 ans. Enfin, il est des nôtres. Il a repris les notes d'un cousin éloigné qui s'appelait Temple et qui, lui, était parfaitement anglais et qui s'était lancé dans une immense fresque des croisades. Et cette immense fresque n'est jamais sortie. Et Henri Temple... J'imagine qu'il a peut-être plus de temps maintenant, mais je brode. Hein. Peut-être qu'il n'est plus professeur d'université, peut-être qu'il est à la retraite. Et donc, a entrepris d'éditer les 4 tomes faits par son cousin Temple. Et je ne veux pas décourager le futur lecteur, mais Henri Temple a rajouté ensuite 2 tomes. Alors, le premier tome est sorti et c'est tout à fait intéressant parce qu'on est au tout départ de la croisade, donc le concile de Clermont, Urbain II qui appelle à la croisade, et puis on est dans une famille aristocratique près de la Provence qui s'apprête donc à suivre Raymond de Toulouse. On est dans la croisade de Raymond de Toulouse, c'est la première croisade. Vous aviez eu trois cortèges principaux, celui qui venait de la région parisienne avec le frère du roi, Hugues de Vermandois, parce que le roi lui-même ne pouvait pas y aller, il était excommunié parce qu'il avait répudié sa femme et que le pape n'avait pas trouvé ça une bonne idée.
Et puis, il n'y avait pas encore eu Amoris Laetitia, c'est ça qu'il faut dire
voilà,
aux auditeurs.
C'est ça. Et puis, alors de Wallonie, il y avait l'immense Godefroy de Bouillon. Et donc, du sud de la France, il y a eu Raymond de Toulouse, le grand Raymond de Toulouse. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Raymond de Toulouse, qu'on a parfois dépeint comme un personnage un peu colérique, enfin, c'était des croisés, ils n'allaient pas jouer au whist, soyons clairs. Donc, il avait ses défauts, mais c'était quand même un sacré guerrier. Il s'est effacé devant Godefroy de Bouillon, c'était difficile, parce que lui, il partait pour devenir roi de Jérusalem. Et les autres qui le jalousaient un peu, parce qu'il faisait un peu de bruit, ont élu le plus discret, le plus saint, le plus pieux. Au fond, c'était une bonne idée, c'était Godefroy de Bouillon, qui malheureusement n'a vécu qu'un an comme roi de Jérusalem. C'est lui qui avait eu la fameuse phrase « je ne porterai pas de couronne car je ne peux pas porter une couronne de roi là où le Christ a porté une couronne d'épines ». Godefroy de Bouillon.
Ouais.
Bon, en d'autres temps, on se poserait la question de la béatification de Godefroy de Bouillon. Et Raymond de Toulouse donc, se prépare à cette croisade et donc on vit avec une famille aristocratique, amie de Raymond de Toulouse. Et ce premier tome s'achève en Italie, donc on est encore loin du compte, mais c'est tout à la fin en Italie, ça se passe dans les préparatifs, et puis dans des combats en Provence, on l'a oublié, et ça c'est passionnant, en Provence où c'est bourré de sarrasins, parce qu'ils avaient été repoussés par Charles Martel, Charlemagne, Victor Hugo raconte ça dans La Légende des siècles, avait sauvé Narbonne, récupéré toute une partie de ce coin. Et en Provence, il en restait plein. En plus, ils faisaient des razzias régulièrement. Ils enlevaient des jeunes hommes, des jeunes filles pour en faire des esclaves sexuels pour les unes, des esclaves tout court pour les autres. Et ils tombent au milieu de ces... Ils tombent même à un moment donné au milieu d'un siège. C'est authentique, c'est très travaillé historiquement, c'est extrêmement intéressant. Et donc, un petit bout d'armée croisée va attaquer ces sarrasins. Et donc, on apprend beaucoup de choses. C'est très enlevé, c'est très sympathique. Et donc, le tome 2 est maintenant sorti, je viens de l'acheter, et donc le lecteur se prépare à des heures difficiles.
Alors, ma question, toujours, avant de nous quitter, le prochain livre, vous pouvez déjà nous dire, vous avez déjà...
Eh bien, écoutez, je vais vous faire une confidence, il ne faut pas le répéter. Cette nuit, je viens d'avoir mon 23e petit enfant, une petite fille. Et enfin, elle porte le prénom dont je rêve depuis longtemps, Bérénice. Et donc, je vais mettre en hommage à Bérénice la pièce de théâtre de Racine.
Magnifique. Voilà. Donc, on offre cette émission à Bérénice.
Merci.
En lui étant bienvenue parmi nous. Antoine Delacoste, un grand merci. Que les auditeurs de Radio Courtoisie qui veulent poursuivre un petit peu cette conversation, eh bien, aillent sur vos deux blogs, Géochronique pour la géopolitique et Les livres d'Antoine pour les recensions de livres. Et nous nous retrouvons le soir, alors à 19h30, dans 15 jours.
Vous venez d'entendre le libre journal des traditions créé par Claude Giraud et dirigé par l'abbé Alain Laurence, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 26 février 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.